avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ?
C'est pas... Pourquoi
vive la France ? Bah, vive la France parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République.
Bah oui, j'en suis honorée.
Vive la France, vous pouvez pas dire vive la France.
Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi, le 14 juillet.
Hein, pas convaincant.
Non, mais je sais pas, vous voulez que je mette au garde après que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi.
Non, parce que vous êtes né au Gabon.
Je dis comme simplement vive la France.
Non, mais vous êtes né au Gabon.
Je suis allée à l'Assemblée, c'était...
Oui, vous êtes élu de la République.
Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas mal. Et y compris, vu d'où je viens.
Mais c'est pour ça,
et y compris avec les retours de... Non,
mais c'est parce que vous êtes aussi... C'est un espoir, l'école républicaine, la République vous a permis d'être arrivé
ouais,
où vous êtes là.
Ouais, bon, après j'ai un parcours qui est particulier, mais je trouve que oui, je trouve que c'est bien. Après, je me lève pas le même matin en disant vive la France, c'est pour ça que non, je trouve que c'est qu'il faudrait plus.
Vous êtes plus facile à soutenir nique la France que de dire vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est...
Ça me paraît bizarre. En gros, dès qu'on vous dit vive la France, vous dites vive la France.
Mais un pays qui... Je sais pas si vous vivez dans un pays qui... où il y a tant d'imperfection de ça qui vous convient vraiment pas.
Non, attendez, là, vous me faites dire des trucs que j'ai dit.
Je sais pas, moi.
Non, j'ai dit que je dépendais des libertés démocratiques.
Moi, je suis français, je dis vive la France, parce qu'effectivement, un pays comme la France, où on est aussi libre et aussi heureux qu'en France, il y en a quand même des wagons.
Je viens de vous dire que j'étais, y compris, j'assumais de défendre les libertés démocratiques. Donc, voilà, je sais pas c'est quoi le problème.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission aux sources. Aujourd'hui, je suis en présence de Daniel Obono, député du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu sur la, je regarde mes notes, 17e circonscription de Paris. Correspond à...
C'est à cheval entre le 18e et le 19e arrondissement. C'est la partie 18e, Barbès, Marx-Dormois, La Chapelle. Et 19e, c'est Crimée, Stalingrad.
D'accord. Et donc, et vous êtes à la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est quoi, en quelques mots, son objectif?
Alors, la commission des lois s'occupe de tout ce qui porte sur la justice, la police, les lois constitutionnelles. Par exemple, la réforme constitutionnelle, on l'a préparée en commission des lois, et l'administration générale de l'État. Donc, c'est une grosse commission.
C'est une des commissions les plus demandées, c'est ça, parmi
Les plus demandées, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a beaucoup de textes, en fait.
D'accord. Alors, la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que d'abord, ici, hors série, on suit attentivement votre travail parlementaire, mais aussi que vous avez co-écrit deux ouvrages dernièrement, deux ouvrages qui sont deux bilans, mais alors c'est pas exactement les mêmes bilans. Il y en a un, le premier, paru aux éditions du Seuil, La régression en marche. C'est un ouvrage co-écrit par les 17 députés insoumis et qui fait finalement le bilan de la première année du gouvernement Macron-Philippe, mais aussi le bilan du travail qu'ont fait les insoumis à l'Assemblée. Et le deuxième livre, alors là, il vous est plus personnel. Il a été coécrit avec votre collègue députée Caroline Fiat. En fait, c'est un livre entretien qui revient sur votre parcours personnel et militant, sur votre découverte de l'Assemblée nationale et les perspectives aussi politiques qui sont les vôtres. Donc voilà, ça nous a intéressés parce que c'est vrai qu'hors série, c'est ce qu'on essaye toujours un peu de faire, c'est de prendre du recul par rapport à l'actualité immédiate, à l'urgence. Et ces deux livres bilan sont une bonne occasion de le faire. Donc on va beaucoup parler de cette année et demie que vous venez de passer à l'Assemblée, mais peut-être parce que vous avez eu une vie avant l'Assemblée, j'imagine, est-ce que je peux vous laisser en quelques mots vous présenter, nous expliquer ce que vous faisiez avant qu'on développe toute cette expérience de parlementaire ?
Alors moi, je suis bibliothécaire de profession. Du coup, je travaillais à la ville de Paris en bibliothèque publique de lecture publique, je faisais aussi de la recherche en sciences politiques, sociologie politique sur les mouvements sociaux au Nigeria, et voilà, en gros, je suis une militante politique engagée dans les mouvements altermondialistes, mouvements anti-guerre, les mouvements étudiants, notamment le CPE, le mouvement contre le CPE, depuis 2000-2001 à peu près, les luttes antiracistes, antifasciste. Et voilà, en fait, ce que j'ai fait pendant longtemps, j'ai beaucoup milité donc dans les mouvements, dans des organisations politiques. Et voilà, et puis ça m'a amené aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous, qui a passé de longues années dans les mouvements étudiants, altermondialistes, anti-guerre, à un moment décide de sauter le pas, de se présenter pour intégrer l'Assemblée nationale ? Vous, par ailleurs, je reviens un petit peu sur votre parcours militant, vous étiez membre d'un... Alors bon, tout le monde n'est pas féru de trotskologie, mais vous étiez membre d'un courant du trotskisme français, oui. Socialisme par en bas, vous avez appartenu à la Ligue communiste révolutionnaire jusqu'en 2011 à peu près, c'est ça donc...
Oui, la LCR, puis qui est devenu le NPA.
C'est ça.
Et donc, oui, ça, en voilà. 2011...
Avant de rejoindre...
Le Front de gauche, voilà, en 2011. Parce que en fait, avec plusieurs camarades, on pensait que ce qui se passait avec la sortie de Jean-Luc Mélenchon du Parti socialiste, les débats avec le Parti communiste étaient un moment important. Et du coup, la constitution du Front de gauche en 2009 nous a semblé le moment où on pouvait, où on devait participer à ces dynamiques avec, en plus, ce que le NPA a pu porter comme début dynamique de rassemblement. On a débattu, essayé de convaincre nos camarades de la nécessité de participer à ce front unitaire, et n'ayant pas réussi à convaincre une majorité, on a rejoint en tant que composante le Front de gauche en 2011, et donc la campagne 2012, les débats après la campagne sur comment on construit, et après le choix de rejoindre la dynamique de la France insoumise sur la base du constat de l'échec du Front de gauche à dépasser le cartel, et du coup la nécessité face aux perspectives des échéances présidentielles et législatives de 2017 de s'opposer à l'extrême droite, en tout cas pour moi, à Marine Le Pen, avec une position de gauche qui s'assume et qui marque clairement la rupture avec le Parti socialiste. Donc voilà, j'ai rejoint la dynamique de la France insoumise à ce moment-là. Et donc c'est des choix politiques, parce que j'ai toujours été, quand j'ai commencé à militer, dans le mouvement altermondialiste, parce que c'est un peu là qu'on a, avec d'autres, qu'on a rejoint au moment d'arriver à Paris, les mobilisations d'attaque contre le G7, contre le G8, les sommets de l'Union européenne. Et en même temps, j'ai rejoint aussi des groupes politiques. Donc il y a eu toujours cette dimension mouvement et organisation politique dans mon parcours militant. Et donc voilà, les choix à un moment donné stratégiques avec le... je pense que le moment... important, c'est la dynamique de 2005 et du traité constitutionnel européen, et la nécessité, du coup, à partir de là, de construire un rassemblement unitaire, large, de toutes les forces antilibérales et qui souhaitaient constituer une alternative au social-libéralisme, à la droite et à l'extrême droite. Donc c'est sur la base de ce choix stratégique-là que... par campagne successive et par construction successive, j'ai rejoint la France insoumise et je me suis présentée ensuite en tant que candidate.
J'entends que dans votre parcours, il y a donc aujourd'hui, comme quand vous commencez à militer dans les années 2000 dans le mouvement altermondialiste, il y a toujours eu ces deux composantes, mouvement social d'un côté, organisation politique de l'autre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même qu'il y a eu un déplacement du pôle mouvement social vers le pôle parti politique, peut-être, et vous allez me dire si je me trompe, mais que vous êtes quelque part passé de la révolution à la réforme, ou de l'idée que le changement passe quand même essentiellement par la rue à...
Non, enfin après...
Non, mais pas forcément. En plus, ce n'est pas forcément pour dire que vous êtes assagi ou droitisé, mais la situation politique peut changer aussi.
Oui, justement. J'assume totalement le fait que c'est le rapport de force sociale, politique qui change. Déjà, quand on a rejoint la LCR En 2003, c'était aussi suite à 2002, suite au choc de Le Pen au deuxième tour et de Olivier Besancenot qui fait un score, 5%. Aujourd'hui, on se dit c'est pas grand chose, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. C'était un événement en fait politique et ça montrait que on politiquement, et c'était pas simplement les mouvements, mais ça se traduisait justement ce retour de mobilisation. Cette résurgence, le mouvement altermondialiste qu'il avait pu porter, se traduisait sur la scène électorale et politique. Et ça, c'est quand même un changement par rapport à un certain nombre d'années, surtout après 89, où c'est un peu il y a un peu un sentiment d'amadement dans toute la gauche, même anti-stalinienne, qui s'était opposée pendant des années à la Russie. Soviétique et au stalinisme, mais voilà, il y a quand même un changement dans les années 2000 avec la résurgence de mouvements altermondialistes. Et puis le score d'Olivier Besancenot, d'Arlette Laguillier à l'époque, il traduit cette radicalité politique qui s'exprime électoralement. Donc c'est sur cette base-là déjà d'un rassemblement des révolutionnaires à l'époque que on rejoint avec notre groupe l'ALCR et le NPA, c'est aussi la traduction de ça, c'est-à-dire ensuite il y a l'élection de 2007 où Olivier Besancenot confirme son score électoral et donc à nouveau, c'est le constat que la parole de la gauche radicale, de la gauche révolutionnaire, est audible à une nouvelle échelle. Et donc tout ça, ça crée aussi des responsabilités qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on amplifie ça, comment est-ce qu'on l'articule avec les mouvements. Et il y a toujours eu cette problématique, ce questionnement et ces tentatives de mise en pratique de l'articulation entre la rue et les urnes dès cette période-là, en fait. On va dire depuis 2002 et depuis l'apparition de cette force électorale, enfin de ce qui est devenu une force électorale pour moi en tout cas. Je pense que ce que ensuite en 2012 et 2017, ce que réussit à faire Jean-Luc Mélenchon, ça vient pas de nulle part, ça vient aussi, et ce qu'on a construit avec le Front de Gauche, c'est pour ça que moi je militais à l'époque au NPA pour qu'on rejoigne cette dynamique-là, c'est l'élargissement encore au-delà de simplement l'extrême gauche de cette dynamique-là. Donc voilà, après, le fait est que ce balancier-là s'est déplacé effectivement de l'extrême gauche que représentait le NPA et Olivier Besancenot et Arlette Laguillier on va dire une gauche radicale issue du Parti socialiste qu'a représenté Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, après, c'est l'échec de l'extrême gauche à se transformer suffisamment, à comprendre les dynamiques sociales électorales et le centre de gravité s'est effectivement déplacé. Voilà, après, on n'a pas réussi à convaincre nos camarades et puis on a fait le bilan et on a continué à avancer. Mais ce n'est pas une ligne toute tracée, ça s'inscrit. En tout cas, moi, je me suis toujours inscrite dans les dynamiques sociales, politiques, électorales, mais aussi des mouvements et de comment se sont traduits ces mouvements-là au cours des 10 et 15, maintenant bientôt 15 dernières années.
Alors justement, puisque vous parlez des rapports avec Olivier Besancenot et puis plus largement le nouveau parti anticapitaliste, il y a à l'instant où on tourne cet entretien, il y a un autre entretien que vous avez fait avec Olivier Besancenot axé autour de la question migratoire qui a été publié par nos amis de Ballast. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un entretien d'abord fraternel entre militants d'une même famille politique et j'ai trouvé que c'était aussi un entretien de très haute tenue justement sur cette question pas simple, où souvent il y a des noms d'oiseaux qui fusent, mais où il faut accepter le débat. Comment, pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qu'on invite à aller le voir, comment est-ce que vous résumeriez le différent et peut-être aussi le socle, parce qu'il y a quand même un socle, quand même, je pense, qui rassemble aussi bien les insoumis que le nouveau parti anticapitaliste. Mais voilà, c'est quoi le nœud de la discussion? Où est-ce que ça se crispe
Bah écoutez, il faudra lire l'entretien. Après, j'ai accueilli favorablement l'initiative de Balas parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs semaines depuis la rentrée de septembre que notre mouvement subissait une série d'attaques vraiment particulièrement violente, remettant en cause un certain nombre des principes et des combats qu'on a menés, que ce soit à l'Assemblée nationale depuis plus d'un an, mais aussi en tant que militant depuis des années. Et je pense que ça a été une série d'attaques extrêmement déloyales parce que en fait, qui n'était basée sur rien. Et donc l'échange qu'on a avec Olivier, c'est pas Olivier lui particulièrement, mais voilà. On a eu, comme ça, pendant plusieurs semaines, un tir de barrage. Je pense que pour certains, c'était clairement à visée électoraliste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment politique où l'extrême droite, la droite, que moi, aujourd'hui, j'identifie de LR à LREM, parce que sur cette question comme sur d'autres, voilà, c'est un équilibre, et c'est le gouvernement et la majorité qui l'a expliqué elle-même lors des débats sur la loi asile-immigration. L'équilibre, en fait, il se fait entre la droite et la droite extrême qu'ils essaient de trouver. En tout cas, la pente est vraiment prise et assumée de légitimer le discours de l'extrême droite sur la question des migrations. On parle de submersion, on parle les premiers qui ont quand même eu des propos incriminant les associations, les ONG qui viennent en aide aux migrants et aux migrantes, ce sont des membres du gouvernement, de la majorité parlementaire, qui disent les associations qui font le jeu des passeurs, qui font leur beurre sur ces pauvres gens. C'est des discours de l'extrême droite qui ont été repris de manière tout à fait assumée au sein de l'Assemblée nationale. Donc oui, dans un climat comme ça, et heureusement, il y a eu une mobilisation forte des associations qui voilà, ont été très... très clair dans leur opposition au projet de loi, y compris des figures très macro-compatibles, voire macronistes qui avaient voté pour, qui se sont opposés. Et donc, oui, il y a eu ce débat important. Nous, on a mené la bataille avec d'autres, d'ailleurs, au sein de l'Assemblée nationale, mais je pense qu'on n'a pas été les derniers, au contraire, à mener une bataille très, très, très dure d'opposition à cette régression. Et donc, oui, c'est un débat important, mais pour moi, il n'y a pas de fracture ou de changement de cap ou de régression de la part de notre... de notre sensibilité politique sur ces questions. Au contraire, je crois qu'on a vraiment fait un travail justement d'affiner encore plus entre ce qu'on avait développé pendant la campagne au sein du programme, du livret thématique, qui nous a permis d'élaborer nos amendements pendant le débat et d'élaborer une brochure d'une quarantaine de pages qui précise d'ailleurs ces éléments-là. Je trouve qu'on a vraiment approfondi et renforcé nos propositions. Et donc, voilà, ces attaques, je les ai trouvées vraiment, vraiment insultantes, de mauvaise foi. Et du coup, c'était l'occasion de poser ce qui fait débat. Parce que oui, il y a des débats comme sur cette question, comme sur d'autres d'ailleurs, d'appréciation sur comment on analyse aujourd'hui la réalité des flux migratoires. En sortant, et ça, ce qu'on n'a pas arrêté de faire, des fantasmes sur la submersion, etc., il n'y a pas de submersion de l'Europe, encore moins, mais il y a une réalité des flux migratoires, que ce soit sur la question des guerres, guerres militaires, guerres économiques, le problème de la transition, des dérèglements climatiques. Donc voilà, comment on analyse ça? Comment on pense aujourd'hui de la France, du point de vue d'une puissance impérialiste et de ses responsabilités dans les guerres économiques et les guerres militaires, le type de politique qu'on va mettre en œuvre pour répondre à ça. Et c'était toute la question sur s'attaquer aux causes ou pas s'attaquer aux causes. Moi, je pense que
C'est un débat légitime à avoir, mais certainement pas en assenant des gauches anti-migrants et ce genre de choses. Enfin, on peut discuter, on l'a, je pense, montré avec la discussion avec Olivier sur le fait qu'on peut discuter de ça et se dire, ben, est-ce qu'on s'attaque aux causes, pourquoi est-ce qu'on parle des causes, etc., sans être mis à l'index et quasiment en disant, si vous ne signez pas tel truc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à laisser mourir des gens. On a eu quasi un point Godwin en disant « Mon grand-père, si c'était vous », enfin des choses hallucinantes qui en plus, dans le contexte actuel, ne, à la fois les débats internes, je veux dire, à notre espace politique, mais surtout, en fait, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça devrait servir ? À donner confiance aux gens, à nous donner des outils pour gagner des batailles très concrètes sur la question du soutien et l'aide aux migrants et aux migrantes, et puis à convaincre une majorité des concitoyens, de nos concitoyens et concitoyennes, que effectivement les migrants ne sont pas le problème. Le problème, c'est le banquier et l'immigré, l'évadé fiscal, et que on a les moyens aujourd'hui d'accueillir dignement les gens. Parce que au final, tout ça doit servir à faire avancer la solidarité, etc. Et au final, tout ces, la manière dont ont été abordés ces débats-là, ils ont fait tout le contraire, à mon avis. Ça voilà, non seulement insulter des militants, et pas juste nous, pas juste les personnes qui étaient ciblées, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou d'autres militants de la France insoumise, mais tous les milliers de militants insoumis et militantes insoumises qui sont sur le terrain tout le temps, créer une fausse vraie confusion. Et voilà, et de qui ça fait le jeu, si ce n'est de Macron et de l'extrême droite, au final. Donc voilà, après, si cet échange permet aux uns et aux autres, ceux qui sont sincèrement intéressés par le débat, parce que je pense qu'il y en a qui sont totale mauvaise foi et c'est même pas la peine d'essayer, ouais. Mais voilà, de poser les choses et de dire, finalement, au final, voilà, une fois qu'on a posé tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Comment est-ce que tout ça nous aide à concrètement se battre avec les migrants et les migrantes pour qu'ils puissent manger trois fois par jour, qu'ils aient un toit sur leur tête, etc. Parce qu'au final, nous, c'est ce qu'on voit aussi et c'est ce qu'on fait concrètement. Moi, je suis députée de la 17e circonscription et ça comprend notamment la porte et la place de la Chapelle. Et donc, c'est à Paris, là où se retrouvent les personnes migrantes livrées à elles-mêmes. Donc, cette réalité-là, je la connais. Et au-delà des débats, moi, j'aimerais, sur le terrain, qu'on soit plus nombreux et nombreuses à trouver des solutions de logement et à trouver des formes d'auto-organisation des migrants eux-mêmes et des migrants et des migrantes pour subvenir à leurs besoins et trouver des hébergements. Donc voilà, ces débats-là ne servent et n'ont d'intérêt que si ça aide à gagner en solidarité, en victoire concrète sur le terrain et en clarification de la conscience de masse, quoi. Sinon, c'est des débats internes et politiciens voilà, qui ne servent à rien, de mon point de vue.
Merci. Alors, l'immigration, je crois que vous avez dit, vous la connaissez parce qu'il y en a dans votre circonscription. Vous la connaissez aussi parce que vous êtes vous-même quelqu'un
immigré.
Qui l'a vécu dans sa chair. Vous êtes né au Gabon, c'est ça ? Et vous êtes arrivé en France vers...
À 10-11 ans, au collège, en fait, pour...
Alors, j'ai retrouvé un texte dans lequel vous écriviez « Je suis devenu noir ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis devenu noir » ? Vous ne l'avez pas toujours été ?
Si, mais c'était, on va dire, ça allait... Enfin, il n'y avait pas de questionnement à ça. Effectivement, moi, j'ai grandi à Libreville, au Gabon, dans une société où la majorité des personnes sont noires. Mais il y a un rapport à la France particulier... Et ça aussi, c'est très présent et prégnant parce que c'est une ancienne colonie française, que la France est présente notamment à travers ses entreprises pétrolières. Et donc, ça aussi, ça fait partie des évidences. On va dire que voilà, la France, c'est la puissance et ça représente quelque chose de politique, culturel, très fort. Mais voilà, moi, ma manière de penser le monde, elle est construite aussi sur le fait que on n'est pas juste noir, on est gabonais, on a plusieurs identités qui sont pas contradictoires. Le fait d'être d'une ethnie, mes parents sont de deux ethnies différentes, donc c'est aussi une grille de lecture particulière. Mais voilà, donc c'est pas la même chose que ce que peuvent vivre
des Français et Françaises nés ici et ayant grandi dans une société majoritairement blanche, alors que elle et ils sont noirs, arabes, asiatiques. Et je pense que ça change en fait la grille de lecture qu'on peut avoir et comment on se pense et comment on s'identifie. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, mais quand je dis je suis devenue noire, c'est plus au sens politique. C'est-à-dire, bien sûr, en arrivant ici, il y a plusieurs expériences de décalage, de racisme, de micro-agressions racistes, sur l'exotisation, les cheveux, et le fait que, en arrivant ici, j'ai été l'une des seules noires dans un monde très majoritairement blanc, que ce soit celui de l'école ou d'autres espaces, notamment l'espace politique. Et en fait, c'est politiquement, la prise de conscience de sa singularité, elle s'est faite, mais pas tout de suite, mais progressivement, de se rendre compte que, effectivement, dans les espaces politiques organisés, j'étais très souvent, quasi tout le temps, la seule femme noire de moins de 30 ans. Alors maintenant, j'ai plus de 30 ans, mais même encore aujourd'hui, je reste une figure singulière. Et du coup, cette identité politique-là, de raciser, et en même temps, pas simplement comme un rapport de domination et de discrimination, mais aussi comme une expérience politique, une histoire, une culture au sens large, quelque chose qui est fait aussi du résistance, qui est fait de fierté, s'est construite en fait progressivement dans mon parcours politique, en étant confrontée justement à ce monde blanc, d'hommes blancs en moyenne 40-50 ans, et qui du coup, sur des questions très concrètes politiquement, d'antiracisme, de lutte contre les discriminations, sur le papier, bien entendu, c'était la gauche, c'est la gauche et on y croit. Mais en fait, en réalité, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour déconstruire et les positions de privilège, les positions de domination, les privilèges, et que ça se traduise par un combat, on va dire, antiraciste plus systématique, plus conséquent, avec une vraie stratégie. Et je pense que notamment sur ces questions-là, c'est un des angles morts et c'est une des faiblesses aujourd'hui de notre espace politique, d'être en capacité de construire un mouvement antiraciste et une stratégie d'unité du peuple qui a compris et intégré ces problématiques-là, en fait.
Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est très masculin, c'est très blanc. Alors, est-ce que justement, vous avez commencé à l'aborder? Vous avez dit que ça peut être une fierté aussi d'être une femme noire. C'est pas simplement un handicap, être victime de discrimination. Comment, ça joue aujourd'hui? Il y a des anecdotes peut-être qui ont été marquantes.
Ce qui est vrai sur l'Assemblée aujourd'hui, c'est que ça a quand même changé. Moi, j'ai pas l'expérience. C'est mon premier mandat, donc j'ai pas l'expérience d'avant. Mais de ce qui est dit, c'est qu'il y a quand même la moyenne d'âge a légèrement baissé. Il y a eu une forme de renouvellement et donc ça, c'est notamment la majorité actuelle a grandement participé à ce que ce soit renouvelé en termes non seulement de pas, il n'y a pas de la parité encore, mais de plus de femmes députées et un petit peu plus. De personnes noires, arabes, asiatiques qui sont députées. Ça a quand même changé un petit peu, j'imagine, l'atmosphère générale qui était celle d'il y a peut-être 5 ans où il y avait vraiment beaucoup moins de femmes, beaucoup plus d'hommes blancs de plus de 50 ans. Donc, à l'Assemblée directement, j'ai pas vraiment ressenti ou vécu ou eu l'expérience des micro-agressions racistes ou sexistes, même si moi comme d'autres d'ailleurs, surtout les premiers mois, le fait de
pas être identifié comme député parce qu'on est femme et qu'on est jeune, y compris parce que jusqu'à présent, la femme jeune, elle était plutôt assistante de l'homme blanc député. Mais après, ça, c'était aussi le fait qu'il y a vraiment eu un grand renouvellement et puis il a fallu du temps pour que les services arrivent à identifier. Après, moi, ce qui est particulier, c'est que comme j'ai été tout de suite, sous les feux médiatiques, j'ai pu être identifiée assez vite. Mais oui, ça, c'est arrivé que, moi et d'autres collègues femmes, d'ailleurs, notamment les plus jeunes, soient comme ça un peu invisibilisées et on ne considère pas qu'elles soient députées. Mais c'est plus, on va dire, dans l'attention publique et médiatique que j'ai ressenti de plein fouet le sexisme et le racisme extrêmement fort, en fait, de la société médiatique et des injonctions, en fait, quand on est une femme noire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, d'être jamais assez comme il faut, et surtout quand on est insoumise, qu'on est et qu'on assume une parole radicale et qui va contre l'air du temps sur un certain nombre de questions, on prend de plein fouet le pire de ce qui existe en termes sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, oui, ça, c'est sans aucun... Oui.
Il y a eu cette, c'est ce qui me revient à l'esprit, mais il y a eu cet épisode assez détestable aux grandes gueules de RMC où on vous a sommé, il y a plus d'un an, je crois, mais on vous a sommé de dire que, vous aimiez la France. Comment, justement, par rapport aux médias, est-ce que... Alors, on entend parfois, je pense que c'est une théorisation peut-être qui est... Je ne sais pas si elle est propre à Jean-Luc Mélenchon ou justement à la France insoumise plus largement, mais est-ce que vous considérez qu'il y a un système médiatique qui fait bloc, que ce système, c'est votre ennemi, ou est-ce que vous opérez des distinguos à l'intérieur? J'imagine que vous recevez, pour être plus concret, vous recevez beaucoup d'invitations, de sollicitations médiatiques. Comment est-ce que vous décidez, en fonction de quels critères, vous avez fait l'honneur de venir ici hors série, comment vous l'analysez un peu?
Sur la question de l'analyse des médias, et ça, c'est une différence significative que j'ai toujours apprécié pas juste Jean-Luc Mélenchon, mais le courant politique qu'il a représenté dès le Front de Gauche. Il y avait notamment... il n'y a pas que lui qui l'a terrorisé cette analyse-là du système médiatique. Et par exemple, je vois la différence sur la manière en plus de penser la stratégie médiatique. Ça n'a rien à voir entre ce qu'on a pu faire, ce qui a pu être fait dans le NPA, à l'époque du NPA d'Olivier Besancenot, et puis le Front de Gauche, c'est-à-dire qu'on prend au sérieux la question des médias. C'est pas juste parce qu'on a une stratégie, c'est aussi lié avec la stratégie, on a une stratégie majoritaire. Mmh. On veut être majoritaire, on veut être au pouvoir, et donc tous les espaces de pouvoir, on veut y être, intervenir pour gagner l'hégémonie. Donc je pense que c'est pas juste le système médiatique, c'est l'ensemble, c'est une stratégie d'ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que moi, du coup, le fait de prendre au sérieux, d'occuper l'espace médiatique, d'avoir ce travail-là, moi, je l'ai découvert en rejoignant le Front de Gauche, tout le travail d'analyse et de théorisation fait par le parti de gauche à l'époque, là-dessus, je pense que il y a une vraie analyse, quoi. C'est pas la caricature qu'on en fait. Et moi, je pense que oui, il y a un système médiatique, mais comme tout système, et je ne crois pas que quand on écoute attentivement et quand on voit ce qu'on dit d'ailleurs sur le sujet, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'il en est dit dans les médias eux-mêmes. On a fait un livret sur la question des médias que je crois personne ou très peu de journalistes ont lu, parce que sinon ils verraient que on n'est pas aussi caricaturaux que
ils veulent bien le faire croire. Et donc, oui, il y a un système médiatique, mais qui fait partie, je pourrais utiliser les gros mots de du matérialisme et du marxisme, la superstructure comme l'éducation, l'église, voilà, c'est une superstructure idéologique et qui est aujourd'hui une industrie, enfin une industrie de masse, l'industrie de l'information qui est possédée, et donc il y a un système, et c'est vraiment des fois c'est quand même, je suis assez surprise que certaines réactions, on a l'impression, voilà, je pense que c'est un parti pris idéologique de penser les médias de manière un peu idéale, et comme si, voilà, si il y a des conditions matérielles de production de l'information, les conditions matérielles des personnes qui produisent l'information, qui possède les médias, et en quoi, déjà on pourrait revenir à l'origine du journalisme en disant que ça n'a jamais été neutre, enfin c'était... C'est lié aussi au développement du capitalisme et de l'industrie, et du fait que dès le départ il y avait de la publicité, parce que c'est ça, enfin voilà, on ne serait-ce que l'histoire des médias et du journalisme est consubstantielle de l'histoire de la révolution industrielle, etc. Donc alors on pourrait avoir des références bien antérieures, mais voilà, donc il y a une base matérielle, et pour moi c'est une analyse marxiste, quoi, matérialiste, de la production de l'information aujourd'hui, de ce qui fait système, et des rapports de force qui existent. Et ça, on l'a toujours dit, bien sûr qu'il y a la position n'est pas la même entre celle d'un éditorialiste, d'un patron de presse, et puis d'un pigiste qui fait le travail qu'il a à faire, qui n'a pas le temps de faire de la recherche, qui reprend des copier-coller, etc. Donc oui, moi je crois vraiment à... d'abord, il y a un travail, il y a une analyse matérialiste qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir, mais qu'on est les premiers, je pense, à avoir assumé en tant que tel. Et en disant, du coup, nous, notre stratégie, comme sur tous les terrains et les espaces de pouvoir, bah, c'est de briser ce système-là, parce que c'est un système de domination idéologique. Et nous, on veut gagner l'hégémonie culturelle, et donc ça passe par une stratégie de confrontation, alors qui peut être frontale à certains moments, ou qui prend d'autres formes. Et je pense qu'entre, par exemple, 2012 et 2017, la campagne présidentielle, elle n'a pas été pensée de la même manière. Comment on utilise les médias, le développement, la stratégie qu'on a eue et qu'on assume, et qui a fait aussi, je pense, une des forces de la campagne de 2017, ça a été d'utiliser les médias sociaux, d'utiliser Internet. Mais voilà, ça aussi, ça fait partie d'un moment donné... passer par d'autres biais, mais sans délaisser, contourner en partie, et se libérer aussi du carcan et des formats. La revue de la semaine de Jean-Luc Mélenchon, ça a été à la fois une manière de contourner, mais aussi de se donner le temps de pouvoir aller de se réapproprier un peu une parole médiatique. Et donc oui, il y a une stratégie politique, moi, que je trouve... juste, enfin une analyse politique que je trouve juste. La stratégie, après on peut dire, voilà, des fois on pousse peut-être le curseur un peu trop loin, mais ça fait partie, on ajuste un peu la tactique. Et puis l'autre dimension, c'est que étant aujourd'hui, pendant longtemps, le focus a été Jean-Luc Mélenchon. La construction médiatique a été centrée autour de Jean-Luc Mélenchon, et ça, on le vit encore aujourd'hui. En fait, on va toujours demander Jean-Luc Mélenchon, on va toujours demander en priorité les hommes. Voilà, c'est encore une bataille.
Les journalistes qui vous sollicitent demandent surtout à avoir Jean-Luc Mélenchon, c'est ça ?
Ou les hommes, enfin, quand vous regardez quand même. Alors moi, pour des raisons particulières et qui ne sont pas toujours... ma notoriété médiatique, elle est due quand même à une série d'attaques dont j'ai été la cible. Donc voilà, et c'est pas, ce qui n'est pas le cas de Adrien Quatennens. Voilà, on a commencé à demander au Bono parce qu'on pouvait lui taper... Enfin voilà, ça faisait des clics.
Ça fait du buzz.
Ça fait du buzz, donc voilà. Mais du coup, d'avoir connu ce baptême de feu médiatique-là... déjà, pendant la campagne, d'avoir vu et été témoin de la pression, de comment ça marche de l'autre côté de l'écran, et le travail physique, émotionnel, psychologique
qu'a fait Jean-Luc Mélenchon et ce que ça demande aussi quand on est soi-même sous les spotlights, je comprends et je suis d'autant plus pas convaincue de tout, mais je pense que voilà, c'est pas juste Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a moi-même ayant été la cible d'une presse, et quand on regardait, on se disait ça avec ma collaboratrice, de dire mais en fait sur tous les papiers qui ont pu être faits sur moi ou les émissions, ou alors quand on fait une émission et en fait c'est jamais repris nulle part, en fait, parce qu'il n'y a rien qui peut accrocher pour faire du buzz, et que dès que je trébuche sur une phrase, ça part dans tous les sens. Voilà, il y a une disproportion et des biais, mais phénoménaux, quoi. Et donc oui, moi, j'assume à la fois notre analyse, notre stratégie de dire, bah oui, on ne fait pas semblant de dire, ouais, les médias, c'est la neutralité, etc. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas du tout neutre. Même des gens avec qui on peut avoir des discussions et des rapports très, très francs et très, etc., 99% du temps, bah, l'article qui va sortir sera un article, de mon point de vue, un article de merde, qui va taper, qui va essayer de chercher la... Voilà, donc... Donc voilà, moi, je me sens très décomplexée par rapport à ça. Et après, ça veut pas dire que... On a toujours le... On dit toujours ce qu'il faut, etc. Mais en étant aujourd'hui dans les chaussures un peu de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a porté pendant des années, je comprends mieux, y compris qu'à un moment donné, on puisse s'énerver, parce que c'est une pression... C'est une sacrée pression. Et c'est on assume le combat politique et la polémique... médiatique, mais voilà, c'est pas un terrain neutre, quoi. Et puis c'est pas un terrain ami, j'allais dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde ça maintenant, quoi.
Justement, sur les médias qui peuvent être des amis ou non, il y a certains, moi j'ai entendu certains électeurs de la France Insoumise s'émouvoir, voire s'étonner du fait qu'on voit beaucoup les députés sur BFM TV, sur C8, enfin sur des chaînes qui, pour le dire vite, appartiennent quand même au grand capital. Et dans le même temps, il y a certaines attaques assez fortes de la part de la France Insoumise contre... des médias qui peuvent être des médias indépendants du type de Mediapart, des médias publics du type de France Info. Alors vous me direz, c'est peut-être eux qui ont donné le premier coup et ce ne sont que des réponses. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que...
Non, après, nous...
Vous choisissez, il y a une réflexion sur... Parce que vous disiez, il y a une réflexion sur la stratégie majoritaire, on va là où les gens écoutent, où il y a beaucoup d'audience. Donc, exemple, c'est assumé d'aller dans des médias qui peuvent être ceux de Bouygues, de Bolloré...
Ah bah oui, mais de toute façon, c'est... Mais oui, justement, parce qu'on a une analyse matérialiste de ce que c'est, on sait très bien. Mais ce qui est quand même... vous parlez du service public, je suis désolée, mais moi, à chaque fois... oui, c'est le service public. Et alors, il y a des journalistes qui essaient de faire bien leur travail, mais il n'empêche que il y a un rapport de force politique, quoi. C'est pas neutre, encore une fois. C'est pas neutre. C'est pas vrai que c'est neutre. Et que le label service public, nous on défend le service public de l'audiovisuel. Encore une fois, on a une stratégie. Global, on défend et on a défendu moi-même et Michel Larive avons fait une question au gouvernement sur France O, sur la disparition de France O, la télévision des Outre-mer. On a toujours défendu les moyens pour le service public. Regardez sur les projets de loi et les débats parlementaires. On a toujours défendu ça dans les faits, et ça, personne ne le dit. Mais on dit aussi clairement que non, quand tel service d'investigation, soi-disant, fait un travail n'importe comment, simplement pour rajouter 100 balles dans la machine pour taper sur la France Insoumise, ben on le dit, quoi. C'est pas, on pense que non seulement c'est du mauvais travail, encore si c'était une enquête à charge, mais bien menée, non seulement c'est fait n'importe comment, et puis c'est une enquête à charge, voilà. Et ensuite, assumer. Et des fois, c'est plus simple et c'est plus facile quand on va répondre, par exemple, au Figaro, parce qu'ils assument, ils sont droites, et on sait, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du bon travail. C'est de dire, à un moment donné, arrêtez de... Et après, je pense que ça fait partie... Vous parliez des médias indépendants. Moi, dernièrement, j'ai eu l'expérience, j'étais sur Mediapart et on a eu un échange très intéressant, respectueux. Quelques jours plus tard, la rédaction qui explique que mon intervention était... ils étaient sidérés par mon intervention et pour eux, c'est... Voilà, ça, parce que du coup, j'avais assumé le fait de ne pas signer leur pétition, etc. Et donc... Et oui, moi, il y a des choses... peut-être que du coup, je pardonnerai encore moins, parce que c'est même pas question de pardon par rapport au... Enfin, BFM, voilà, on sait à qui ils appartiennent. Il y a des gens qui essaient de faire bien leur travail, y compris des fois, ça se passe mieux sur les chaînes privées que sur les chaînes publiques, allez savoir pour quand. Mais c'est vrai que, moi, il y a des choses sur... Mélenchon joue à saut de cadavre, et puis ce qui sont là depuis quelques semaines, c'est la chasse ouverte et c'est clairement, enfin, on ne va pas me faire croire qu'aujourd'hui, Mediapart n'a pas une stratégie politique vis-à-vis de la France insoumise ou traite la France insoumise de manière mesurée et de la même manière qu'on traite le Parti communiste, ou, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà, maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ils assument leur choix politique. C'est un choix politique. Ce sont des militants politiques aussi. Voilà, c'est leur, mais qu'on le sache, quoi, et qu'on ne dise pas à la presse indépendante, indépendante de quoi et de qui, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons reportages et de bons trucs. Moi, je lis des articles et c'est très bien fait, mais ils ont une stratégie politique. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est quand même un petit peu clair et qu'ils l'assument, et au moins, on ne fera pas semblant de... voilà, enfin, voilà. Mais c'est vrai que peut-être qu'on... Moi, en tout cas, personnellement... ça m'a l'expérience et ça n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon et je parle pas en son nom ni rien, ça m'a beaucoup endurci et rendu beaucoup plus indépendamment d'où, enfin, quel que soit le média, quoi. Pour moi c'est du pareil au même. Alors de temps en temps, on a quelques bonnes surprises, mais pour moi, c'est plus l'exception que la règle.
Bon, espérons que ce soit l'exception aujourd'hui. Je voudrais qu'on laisse un peu l'espace médiatique de côté, qu'on revienne vers l'Assemblée, parce que c'est quelque chose qui était important pour moi. L'Assemblée nationale, bon, comme le monde politique dans son ensemble, hein, elle fait l'objet de beaucoup de méfiance de la part des citoyens français et des Françaises. Il y a un certain nombre de critiques qu'on entend souvent contre les députés. Alors, il y en a une qui revient quand même très régulièrement, c'est contre les rangs de l'hémicycle qu'on voit vides. C'est vrai que la plupart du temps, quand on les voit, sauf les séances de questions au gouvernement, mais sinon on voit l'Assemblée vide, y compris pour des votes sur des sujets très importants, la recherche médicale sur la santé des enfants, et on voit qu'il n'y a que 30 députés qui se déplacent pour voter.
Ils font le débat à 5h du matin aussi. Enfin,
voilà, non, mais justement, je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur cette critique? Est-ce qu'elle est bien fondée? Est-ce que vous êtes au cœur de la machine? Vous pouvez peut-être nous en...
C'est un peu ce qu'on explique l'entretien avec Caroline Fiat, en fait. Nous, on a aussi découvert et appris le fonctionnement de l'institution. On a été aussi très vocaux sur le fait que les conditions dans lesquelles on travaillait étaient problématiques. Alors, c'est difficile de faire entendre ça parce qu'on va avoir les critiques, mais vous avez 5000 euros d'indemnité, vous devriez, etc. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'on considère que le travail de parlementaire, justement, il est important et donc ça doit se faire dans des conditions... voilà, on ne peut pas avoir un débat sérieux à 5 heures du matin. Après, et c'est pas juste... on s'est réveillé à 5 heures du matin et on est allé débattre. C'est-à-dire que c'est de 21h30 à 5 heures du matin... quasi non-stop sur les cancers des enfants, quoi. Donc oui, c'est juste pas possible. Mais encore une fois, effectivement, comprendre déjà et se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide de son ordre du jour. Je crois que c'est jusqu'à... On avait fait les comptes sur la dernière mandature et je pense que ça va être la même chose pour là. C'est juste que je crois que c'est 70% ou juste au moins 70% de l'initiative législative qui vient du gouvernement. C'est le gouvernement, en fait, qui décide du nombre de textes qu'on va avoir, de quels textes on va avoir, quand est-ce que ça doit être... et là, en plus, c'est la caricature. La majorité et le gouvernement Philippe Macron, c'est une caricature de... Ils font travailler les députés à la cravache comme dans une entreprise, etc. Donc, Donc cette réalité-là fait que le seul moment effectivement où on voit le plus de gens, c'est les questions au gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'autres réunions qui sont c'est sanctuarisé. C'est les seuls moments qui sont sanctuarisés. Par contre, tout le reste du temps, moi, dans mon agenda, en fait, en gros, on vit au rythme de l'agenda. Toujours en moyenne 3 ou 4 réunions de commissions, de missions d'information, etc., en même temps. Pendant, y compris en même temps que les séances. Donc, effectivement, ça, c'est ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est que, en fait, si on n'est pas en séance, c'est parce qu'on est. On essaie d'être dans 3-4 réunions en même temps quand on n'est pas dans nos circonscriptions. Mais
donc c'est pas moi j'entends aussi. C'est pas que vous êtes aux Bahamas.
Non, certainement pas. Mais c'est vrai qu'on a aussi les critiques contradictoires, c'est-à-dire qu'on dit vous n'êtes pas assez à l'Assemblée, vous n'êtes pas assez en circonscription. Moi je l'entends souvent aussi en disant d'abord en fait nous on assume d'être des députés à plein temps. On croit au non-cumul des mandats justement pour ça parce que. Être député, c'est beaucoup de travail. Et donc, j'imagine même pas comment faisaient et font ceux qui ont encore d'autres mandats, parce qu'en vrai, on fait l'un ou l'autre, quoi, en vérité. Bon. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais je sais pas trop comment. Et puis dire, oui, on est à l'Assemblée nationale parce qu'on est député de la nation et on n'est pas des élus locaux. Parce que souvent, les gens, étant habitués à voir des députés maires, par exemple, c'est le cas, qui étaient en plus là depuis 10, 20, 30 ans, voire. Donc, ils voyaient le maire tout le temps qui passait. Et moi, ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, non, en fait, il y a des élus locaux et c'est très bien, des maires, etc. Mais le député, c'est
l'Assemblée.
Alors, bien sûr qu'il faut être sur les circonscriptions aussi. Donc, quand on n'est pas à l'Assemblée, on est en circonscription ou on est ailleurs en France parce qu'on n'est pas juste le député de sa circonscription. Et ça, voilà, ça fait partie. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Même quand on parle des conditions, on a assumé de parler des conditions de travail quand on venait à peine d'être élu et qu'on a fait du non-stop et qu'en fait, effectivement, on se met à discuter en plein milieu du mois d'août sans jamais avoir fait une pause. Et en fait, c'est pas du travail sérieux. On a assumé, y compris d'être la cible de quelques attaques en disant « comment ça ?» Ils disent « oui, en fait, nous, on pense que tout le monde, même le cadre, je ne sais pas quoi, en fait, si, il faut des conditions de travail, pas que pour nous, parce que derrière, en fait, derrière, avec nous, on a des équipes qui travaillent. Et donc, si nous, on est là, eux, ils doivent aussi être là. Il y a le personnel de l'Assemblée nationale. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, comme on est pour respecter le code du travail et pas faire des heures sup samedi, dimanche à nos équipes et surtout quand on est un petit groupe, parce que ça aussi, les 300 là, de la République En Marche, ils font un système, ils peuvent être une petite centaine chaque semaine et donc tu es là une fois toutes les 3 semaines. Nous, c'est une fois toutes les 3 jours parce qu'on est un plus petit groupe. Et comme on veut être présent sur l'ensemble des fronts, c'est beaucoup de travail, d'autant plus important qu'on est un petit groupe. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut faire prendre conscience et je pense que ça fait partie de notre travail aussi d'expliquer comment fonctionne l'institution, comment elle dysfonctionne, parce que je pense que fondamentalement, le problème on parle de l'abondance législative, etc., en fait, c'est pas les députés, hein, c'est le gouvernement qui décide voilà, et je pense, nous, dans les réformes, et qu'on veut changer les institutions, et notamment le fait que, qu'il puisse y avoir moins de textes, parce que déjà, ce soit pas le gouvernement qui est... plus d'initiatives parlementaires que les parlementaires eux-mêmes. Et ça permettrait de travailler un peu plus longtemps, prendre plus le temps, faire peut-être certainement moins de lois, mais des lois qui soient, y compris qu'il puisse y avoir pas juste des allers-retours avec le Sénat, etc., mais avec les associations, etc., qu'on puisse prendre plus le temps de co-élaborer des lois. Voilà, mais ça, c'est... Un autre Parlement est possible. En tout cas, nous, on travaille à ça dans la perspective d'une 6e République. Mais voilà, effectivement... le travail, expliquer le travail parlementaire et je pense que ça fait partie aussi du travail, enfin, d'un travail politique de comme quand on met aussi l'accent sur les vidéos, nos interventions et voilà pour que les gens ils comprennent ce qu'on fait, ils entendent et ils se réapproprient l'institution à travers ça. Le fait qu'on parle simplement,
qu'on met beaucoup l'accent sur les interventions, que ce soit en commission ou en séance, et la diffusion, c'est aussi pour que le plus grand nombre de gens s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur de l'institution et que l'institution se rende compte que voilà, elle n'est pas un petit monde fermé. En tout cas, on essaie de participer et contribuer à ouvrir un peu les portes et les fenêtres de l'Assemblée.
Alors moi, je trouve ça extrêmement instructif, ce que vous racontez là. Mais il y a un point qui me chagrine et que je veux vous soumettre comme ça de but en blanc, c'est celui, vous l'avez mentionné au tout début, du salaire de plus de 5 000 euros. C'est vrai que du coup, ça alimente les critiques qui reprochent aux députés d'être déconnectés du réel. Et moi, je voudrais savoir pourquoi, à la France Insoumise, vous n'avez pas décidé de baisser un petit peu votre salaire, parce que vos partenaires de Podemos, ils ont le droit à 3 800 et en fait, ils ne se payent que 2 200. Raoul Hedebaut, qui est le leader du Parti du Travail de Belgique, qui était aux amphis à l'Université d'été de la France Insoumise. Lui aussi, il est député fédéral. Au lieu de toucher 6 000, il se verse que 2 000. Et il le dit, il faut avoir un niveau de vie qui correspond à nos idées. Sinon, on finit par avoir des idées qui correspondent à notre niveau de vie. Et j'ai l'impression qu'à part François Ruffin, qui, voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il avait dit au début qu'il se paierait au SMIC, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de réflexion là-dessus, et plus largement que sur le salaire, sur vraiment cette déprofessionnalisation de la vie politique, et peut-être ce vers quoi il faut aller, si on veut vraiment que tout le monde se réapproprie la politique. Où est-ce que vous en êtes? Enfin, je veux dire,
Déjà, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et ça, c'est important à le rappeler, qu'une indemnité qui se base sur la grille de la fonction publique, voilà, qui ne sort pas de nulle part. Donc, en plus, c'est le niveau haut, mais ce n'est pas le niveau le plus haut, parce qu'il y a beaucoup d'autres agents ou membres de la haute fonction publique qui gagnent, qui ont une indemnité deux fois plus importante. Donc, c'est pas pour dire c'est important, moi ça me fait changer, on a tous changé, ou je pense que la plupart, de catégories fiscales. Donc oui, 5007, je crois, c'est d'indemnité. Moi j'étais bibliothécaire avant, c'est 3-4 fois plus que mon revenu. Donc, mais c'est pas non. Enfin, voilà. Déjà, savoir mesure garder, c'est dans la moyenne haute de la fonction publique, mais pas le plus haut. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, il y a y compris des gens qui ont beaucoup plus que les députés. Donc c'est une indemnité qui a une raison, y compris pourquoi est-ce qu'elle est indexée à ce niveau-là, pour qu'il y ait une égalité entre les citoyens et dire en gros, sinon il n'y a que les riches qui pourraient se permettre d'être députés ou élus, parce qu'ils auraient les moyens de ne pas travailler à côté et d'être à plein temps à l'Assemblée nationale, d'une part, et puis pour éviter que les risques de corruption, parce que c'est les deux, en gros. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais à l'époque, si on a donné une indemnité, c'est dire, comme ça, ils seraient moins susceptibles d'être achetés ou facilement achetés, etc. Donc, il faut aussi expliquer ça, parce que sinon, c'est une manière, je pense, assez... comment caractériser ça? Enfin, sinon, c'est... En fait, on n'explique pas aux gens pourquoi. Pourquoi est-ce que les députés ont une indemnité à ce niveau-là? C'est pour ces deux raisons-là. Et je pense qu'elles sont légitimes. Après, ce que vous pointez, c'est la question de se mettre au niveau... À quel niveau? À quel niveau on choisit? François, il l'avait... Alors, je ne sais pas exactement comment il fait ça ou s'il le fait toujours. Ce qu'il avait dit et ce qu'il a assumé... pendant la campagne, c'était une manière, un argument, il le dit lui-même, pour désamorcer le fait de dire, voilà, moi, je ferai ça. Mais en fait, en réalité, on ne se paie pas soi-même. On reçoit une indemnité et après, on peut discuter, réfléchir de comment est-ce qu'on gère ça. Mais l'indemnité, elle est reçue de toute façon. Et après, on peut en donner une partie et
reverser
dire...
Reverser à des associations. Voilà, reverser, parties, voilà.
Ou... Et ça, étant donné que... Ça, c'est des choses, en vérité, qu'on n'avait pas anticipé. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Je trouve que François, il n'avait pas fait campagne là-dessus, mais il avait utilisé ça comme un argument dans la campagne. Mais ça, c'est François, dans sa campagne. On a fait...
on a un groupe qui est composé de sensibilités, de gens qui, comme François Ruffin, comme Jean-Hugues Gratton, comme Clémentine Autain. Et c'est vrai qu'on n'avait pas... Il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées, et certainement pas cette question-là. Après, ça se pose. Ce sera peut-être un élément qu'on réfléchirait. Moi, en soi, j'ai pas de tabou là-dessus. Oui, on pourrait déterminer, mais du coup, comment on détermine par rapport à quoi on tient compte du fait que moi, je suis pas dans la même situation que Caroline qui a des enfants en bas âge ou Alexis Corbière, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on fait notre propre système de enfin, je pense que l'argument politique qui vise à dire ne pas être déconnecté. Moi, je crois pas. Alors, peut-être que si on était... Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être déconnecté quand on est député. Le fait de l'être pendant 30 ou 40 ans, parce qu'effectivement, c'est un monde, quoi. Et nous aussi, il y a plein d'autres marqueurs que l'indemnité qui traduit ça. C'est ne serait-ce que le fait d'avoir des collaborateurs. Enfin, moi, c'était peut-être le choc le plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, qui gèrent votre vie.
On devient employeur.
On devient employeur. Et en fait, c'est très intrusif. Parce que, voilà, il y a des gens qui savent partout où vous êtes. Enfin, le calendrier règle votre vie. Et donc, il y a plein de choses qui font que... Mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on faisait nous-mêmes, que d'autres font. Et on s'habitue à ça, en fait. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on peut être déconnecté. Mais voilà, on va dire ça, c'est... Et ce serait impossible de faire tout ce qu'on fait si on n'avait pas nos équipes et si, à un moment donné, on ne déléguait pas tout ça. Donc oui, il y a des risques, il y a des trucs à combattre. Et que ça, c'est quelque chose aussi de collectif d'avoir en tête. Mais pour moi, encore une fois, c'est comment on fait de la politique. Comment est-ce que nous, on a mis beaucoup l'accent sur le fait que on se laisse pas enfermer dans l'institution. On fait toujours le lien avec les mouvements. La manière dont on élabore les lois, on le fait en discutant avec les associations. On est dans les mobilisations sociales. C'est comme ça qu'on fait vivre. Je pense que ce serait faux de faire croire, parce qu'en fait, de fait. Être député symboliquement, matériellement, etc., ce n'est pas la même chose que être même François Ruffin, même il reverse une partie de son indemnité, c'est François Ruffin, en fait. Il a un capital aujourd'hui politique et culturel, voilà, qui le met. Il a des collaborateurs, il a accès à des choses que, enfin, le fait de dire à travers on a changé, voilà, de catégorie. Moi, je pense que ce qui permet d'éviter que ça se professionnalise, qui est encore autre chose, ben, c'est le non-cumul. C'est le fait de dire, ben, à un moment donné, tu fais deux mandats consécutifs, après, tu fais autre chose. Mais pour ça, il faut aussi un statut des élus qui permettent aux gens, comme Caroline Fiat, qui n'est pas fonctionnaire, moi, je suis fonctionnaire, donc je vais, après mon mandat, je pourrais retrouver un poste. Mais Caroline Fiat, elle était aide-soignante, après son mandat, elle n'aura plus... voilà. Donc, est-ce qu'on fait un statut qui permette justement que ce soit pas que ou les très riches ou les professions libérales très riches, avocats, etc., la haute société civile, soi-disant, en marche, etc., qui peut se permettre, parce qu'en plus, ils gardent leur société de conseil à côté, etc. Donc, voilà. Oui, ayons ce débat-là qui disent comment est-ce qu'on fait pour renouveler les responsabilités politiques, le non-cumul, la parité, le fait que, oui, ça je crois vraiment qu'on a beaucoup à encore faire pour ça, et pour dire, voilà, on peut, moi je pense que quelqu'un qui est élu pendant 30 ans, à un moment donné, oui, il est déconnecté, mais parce qu'il est élu pendant 30 ans, et parce qu'à un moment donné, faut faire autre chose, etc. Donc, je crois que c'est un bon... Enfin, c'est par ce bout-là qu'il faut prendre, parce qu'après, sinon... oui, on l'a pas pensé, parce qu'on l'a pas anticipé, et à un moment donné, on se dit, ben oui, quel moyen on choisit, la médiane, etc. Est-ce qu'on fait la même pour les copains qui font les allers-retours entre les régions, et c'est entre Jean-Hugues, enfin, quel moyen on fait Ça devient un truc, je pense... Alors, voilà, je trouve que c'est pas le bout le plus
le plus intéressant, en fait.
Alors, on va prendre un autre bout.
Il y a des gens à l'intérieur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais d'autres qui sont élus depuis très très longtemps.
Bah, à part Jean-Luc Mélenchon, Clémentine, on va dire. Eric un peu moins. Eric, je crois que c'est, il avait fait. Et Alexis, on va dire. Bah, on est 17, hein, sur les 17, on va dire, il y en a du coup Clémentine, Jean-Luc, Alexis et Eric qui avaient des mandats avant, 4 sur 17. C'est pas la majorité. Et Jean-Luc, oui, il a été sénateur pendant 30 ans, oui. Oui, oui, donc il est le produit aussi de ce système-là, ça c'est sans aucun doute. Après, voilà, heureusement qu'il était encore élu parce qu'on l'a élu, mais en soi, enfin, je sais pas, il aurait pu. Il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues, on pourrait dire là, dans le fait qu'il ait été encore candidat en 2017, parce que si les choses s'étaient passées autrement, peut-être que ça aurait été un autre candidat, voilà, qui est plus là maintenant. Enfin,
François de la Pierre.
Bah oui, enfin, il y a plein de choses qui... Bref, il se trouve que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça fait 30 ans qu'il est élu. Clémentine Autain, ça fait plus de bien 15 ans qu'elle est élue, etc. Et la question se pose, et doit pouvoir se poser, effectivement, à un moment donné, de passer la main. Mais moi, je me le pose moi-même sur le fait de dire... je pense que personne n'est dans une gestion de carrière et de se dire... Enfin, moi, j'imagine bien redevenir... bibliothécaire.
Après,
voilà, si on ne gagne pas et si on n'est pas majoritaire, ce qui changerait encore autre chose et on se poserait les questions autrement. Voilà, Et les règles qu'on se donne et les règles qu'on s'est données, par exemple, sur les séries d'élections qui vont arriver, c'est de dire on est candidat à une élection, on n'est pas sur les trois. Voilà, c'est des choses comme ça très concrètes qu'on met en avant. Et il a fallu aussi les mêmes gens qui disent oui, etc. Après, quand on dit il faut mettre en place, c'est comme la parité. Oui, il n'y a pas assez. Quand il faut mettre en place, bah, en fait, on trouve toujours des raisons pour dire bon, mais finalement, bah, nous on est candidat depuis à chaque élection, bah, on veut continuer à l'être. Bah, en fait, non. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme et systématique sur ces règles-là, sur le non-cumul des candidats et des candidatures. On nous a fait toute une polémique là-dessus, sur les européennes, quand voilà, un des candidats, qui était déjà élu par ailleurs, le comité électoral a choisi de ne pas le mettre au tout début, etc. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, on lui offre tous les plateaux pour dire tout le mal qu'il pense de la France insoumise, mais la raison, c'est quand même que là, on a appliqué une règle en disant non, ceux qui sont déjà... Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Ceux qui sont déjà élus, peut-être que vous avez un mandat à terminer et puis qu'on laisse la place à d'autres. Mmh. Et voilà, aujourd'hui, on nous fait le reproche. Beaucoup de ceux qui nous font ce reproche-là, c'est à eux qu'on donne la parole pour taper sur la France insoumise. Donc,
Alors, justement, puisque vous parlez des élections européennes qui arrivent en mai prochain, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la stratégie qui va être celle de la France insoumise, puisque donc, vous avez passé une alliance au niveau européen, avec notamment Podemos en Espagne, le Bloc de Gauche au Portugal, l'Alliance Rouge Verte au Danemark. Vous avez écrit un texte qui sert de base à cette alliance qui s'appelle « Et maintenant le peuple ». Moi, cette alliance, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de montrer que justement, au niveau européen, la bataille ne se résume pas à, comme on nous la présente dans tous les médias, Macron contre Salvini et Orban. Mmh. Voilà, il y a une alternative à gauche qui existe. Je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, j'ai noté que dans ce texte, il n'était plus fait mention de la stratégie du plan B, voilà, d'un plan B en vue de éventuellement sortir des traités européens. C'est quelque chose qui avait été vraiment mis en avant à l'époque du Front de Gauche. Là, qui m'a paru, mais je ne sais pas, c'est justement le sens de ma question, être un peu mis en sourdine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une inflexion stratégique là-dessus
Non, mais là, on est dans un processus, vous savez, avec les mêmes... Le dernier sommet du plan B avait lieu au Portugal. Enfin, en tout cas, le dernier auquel moi j'ai participé, mais c'était le dernier, l'année dernière, avait lieu au Portugal, avec le bloco, et des représentants de Podemos. Et d'ailleurs, donc, c'est, mais c'est, disons que ce sont deux démarches un peu différentes. Et maintenant, le peuple, ça se veut un mouvement européen sur des bases qui permettent au plus grand nombre de participer. Aujourd'hui, ça s'est élargi, notamment, voilà, il y a l'Alliance Rouge-Verte Danemark, il y a le parti de gauche suédois. Et voilà, et donc avec qui je rencontrais encore des députés la semaine dernière qui discutaient du prochain plan B qui va avoir lieu du coup à Stockholm, si je me trompe, oui, Stockholm, en Suède, en avril. Donc c'est voilà. Mm-hmm. Après, le mouvement est maintenant le peuple. C'est vrai que c'est sur des bases. C'est pas la question du plan B qui est le fil directeur, c'est plutôt quelles sont les bases qu'on veut mettre en avant, effectivement, notamment dans le cadre des élections, mais aussi dans le cadre de campagnes communes qu'on ferait. Là, en ce moment, on est sur une campagne sur, par exemple, la fraude et l'évasion fiscale. Il y a plusieurs autres campagnes, donc articulées, donc quelque chose d'un peu plus large. Mais les débats du plan B continuent, et comme je vous disais, avec les prochaines, ce sera en avril 2019. Et après, la question, c'est comment ça se traduit concrètement en termes de... pas juste de positionnement, mais quelle stratégie, et ça fait partie des débats qui continuent, quelle stratégie on met en œuvre aujourd'hui pour ne pas se retrouver dans la situation d'un gouvernement Syriza, Tsipras, qui aujourd'hui fait le VRP de la Commission européenne en disant c'est super, c'est très bien d'avoir voté le mémorandum et que... Enfin voilà, donc et ça c'est une question...
C'est quoi les pistes pour éviter, dans le cas après, où vous arriveriez au gouvernement
Après, nous, ce qu'on a développé et qu'on continue à faire partie de notre stratégie de la France insoumise, après, les autres d'autres forces européennes on a ces débats-là en tant que plan B, mais ne l'ont pas porté de la manière dont nous on l'a porté, effectivement. C'est de dire, à un moment donné, on assume, quand on est au pouvoir, de proposer des changements fondamentaux de l'Union européenne. On a des propositions sur la gouvernance bancaire, sur la question du protectionnisme, etc. On met ça sur la table. On construit un rapport de force, du coup, avec d'autres alliés pour faire changer les institutions. Et puis, si ça ne marche pas, on met en œuvre, de toute façon, une politique qui ira contre un certain nombre de traités parce qu'on veut se donner des marges de manœuvre. Et c'est ça, en fait, le plan B, c'est de dire... le plan A, pour qu'il y ait un plan B, il faut qu'il y ait un plan A. Le plan A, c'est d'essayer de convaincre l'ensemble. Et puis le plan B, c'est de dire on sera en dehors des clous des traités parce que de toute façon, nous, on va mettre en œuvre notre politique. Donc en gros, c'est aussi de
c'est
jouer
aussi
sur un rapport
de
force.
Bien sûr. Sinon,
on l'a vu sur la question de la Grèce. Mais dans toute négociation et de construction de rapports de force, si on n'a pas de plan B, en fait, on n'a aucune marge de manœuvre, y compris pour essayer de convaincre. Créer un rapport de force, quoi.
Puisqu'on est en train de parler stratégie, j'aimerais qu'on continue sur le sujet. La stratégie, ça se joue au niveau européen, au niveau des alliances, ça se joue aussi vis-à-vis des mouvements sociaux. Et voilà, c'est là-dessus peut-être que j'aimerais qu'on conclue notre entretien. C'est comment vous concevez les rapports de la France insoumise en tant que force politique vis-à-vis des mouvements sociaux, du mouvement syndical, puisque moi j'ai eu l'impression qu'il y avait, voilà, par exemple en 2007, au moment des ordonnances de Macron contre le Code du travail, là la France insoumise a tenté d'impulser, d'être une force d'initiative en créant des grandes marches. L'année suivante, au moment de la réforme de la SNCF, la stratégie m'a semblé être différente. Vous étiez plus dans une démarche d'accompagnement et de soutien au mouvement syndical qui avait toute son autonomie. Voilà, comment est-ce que vous l'envisagez, cette question En plus, c'était là-dessus
après,
qu'on avait commencé l'entretien.
Oui, après, ça fait partie de... Je pense que la France insoumise et l'émergence de notre mouvement a rebattu de fait aujourd'hui les cartes entre un mouvement social, force politique. Voilà, c'est un fait. Après, nous, ce qu'on a toujours dit, on soutient et on a toujours fait déjà la bataille sur les lois Pénicaud, la loi travail, XXL, etc. On a toujours appelé, soutenu toutes les mobilisations sociales, syndicales. On a été présents aux manifestations syndicales, toujours très bien reçus, etc. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de notre part, dans tous les cas.
C'est pas ce qui en a été dit, et je pense que c'est aussi des stratégies politiques d'essayer de, d'affaiblir les mouvements en opposant les uns aux autres. Mais franchement, vous regardez depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été sur cette base-là. On a aussi toujours été sur le fait d'assumer qu'en tant que force politique, et ça, on l'a fait dès l'été.
En septembre 2019.
Non, mais dès juillet, quand on avait appelé à des rassemblements sur. Pour préparer la bataille contre la nouvelle loi travail, la réforme Pénicaud, on a toujours assumé qu'en tant que mouvement politique, on avait des choses à dire sur les questions sociales, bien entendu, non seulement en tant que parlementaire, parce qu'on était amené à débattre et à donner un point de vue, mais aussi on pense que la société dans son ensemble, et pas simplement les secteurs salariés et du coup le mouvement syndical, devait donner son point de vue. Et c'est d'ailleurs, voilà, pour les raisons pour lesquelles c'est débattu à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, ça veut dire, ça se traduit par le fait aussi d'une présence de forme de participation. Nous, on a souvent appelé, notamment, et plaidé pour faire des mobilisations le week-end, parce que ça permettait qu'il y ait plus de gens, potentiellement. Et c'est aussi ces responsabilités qu'on a voulu assumer en appelant à des mobilisations toutes celles auxquelles on a appelé et qu'on a construites n'étaient pas ridicules, loin s'en faut, et je pense ont participé quand même à construire un rapport de force, parce que c'est des dizaines de milliers de personnes dans la rue, et je pense que tout ça, ça s'accumule plutôt que ça ne se soustrait, ces forces-là. Et après, on tâtonne aussi, parce que nous, en tant que mouvement, en tant que groupe parlementaire, comment on articule le travail entre les deux, les positionnements qu'on peut prendre en tant que groupe. On avait choisi, par exemple, que le mouvement ne se positionne pas sur toutes les questions. Le groupe est amené à se positionner sur un certain nombre de questions. Donc, c'est aussi, voilà, on teste aussi des choses, et donc on assume aussi de dire, bon, on a pris des initiatives l'année dernière et on assume de les avoir prises. On pense qu'elles allaient dans le bon sens. En tout cas, c'était l'objectif. Cette année, on va peut-être faire autrement, mais je pense qu'on a toujours été ouvert, et on a reçu et on a discuté avec, reçu en audition à l'Assemblée des représentants du mouvement syndical, dont Philippe Martizès, et donc ce débat-là, il continue. Mais c'est vrai pour les formes organisées, c'est vrai aussi, par exemple là, avec le mouvement sur le 17 novembre, comment est-ce qu'on appréhende ces formes-là qui ne sont pas organisées par des réseaux traditionnels. Et je pense que peut-être à la différence d'autres, on est aussi ouvert parce que, justement, on pense que voilà, les formes de révolte sociale, elles ne sont jamais prédéterminées à l'avance. Et ça, c'est l'histoire, y compris l'histoire des luttes d'émancipation qui nous le disent, quoi. Ça, des fois, il y a l'événement fortuit. Je crois que c'est François qui disait les trucs à la con, entre guillemets. Je crois que c'était ça la formule qu'il avait trouvée. Mais ce n'est pas pour dire que c'est des trucs cons, mais des trucs qu'on n'avait pas vu venir. Voilà,
des étincelles qui mettent le feu.
Et donc... C'est notre responsabilité politique d'être et puis de révolutionnaires, de gens qui veulent le changement social, bah d'être attentifs à ça et d'être utiles à ces mouvements, parce qu'encore une fois, notre perspective, c'est d'être majoritaire, et pour cela, il faut articuler la mobilisation sociale sous toutes ses formes avec une intervention politique, et c'est ça qu'on essaie de faire. De là où on est, en tout cas.
Eh bien, il me reste simplement à vous remercier de nous avoir consacré ce moment. On était ravis de vous entendre. En tout cas, moi, j'étais ravi, et j'espère que ceux qui nous regardent l'étaient également. Merci.
Merci à vous.